14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Nous évoquions les addictions hier et il y a bien une addiction dont nous aurions pu également parler, ce sont les addictions aux nouvelles technologies, que ce soit portables, réseaux sociaux, etc. Ces nouvelles technologies ont considérablement changé nos relations aux autres. Est-ce un plus? Est-ce un moins? Alors tout dépend sans nul doute de la manière dont on les utilise. Néanmoins, et là-dessus il n'y a aucun doute, elles ont favorisé les rencontres multiples, sans doute aussi les infidélités, et elles ont souvent eu un effet négatif dans le couple, parce que quoi de plus désagréable que de voir son partenaire en train de sans cesse regarder son iPhone alors que nous sommes tranquillement en train de dîner ensemble, sans parler évidemment des moments de rapprochement sexuel durant lesquels le téléphone signale l'arrivée d'un SMS. Hélène Vecchiali est avec nous aujourd'hui, elle va pouvoir nous expliquer en quoi nous sommes devenus plus narcissiques ou en tout cas un peu trop tournés vers notre image extérieure et peut-être pas assez en relation avec notre moi profond. Si vous voulez témoigner et si vous avez besoin de conseils, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre. Notre numéro sur Sud Radio 0826 300 300. Bonjour Hélène Vecchiali.
Bonjour Brigitte.
Alors c'est vrai que vous avez écrit un livre sur le narcissisme, Moi, moi, moi et moi. Enfin j'en rajoute un.
Moi, moi et moi.
Aux éditions Marabout. Et c'est ça qui m'a donné l'idée justement de cette émission sur les nouvelles technologies. Parce que c'est vrai, le téléphone sert à exister, à envoyer à nos amis notre photo devant le dernier tableau dans le musée, devant le plus beau paysage, ça nous permet aussi d'envoyer à nos amis tout ce qu'on peut manger dans le meilleur restaurant. Enfin, il y a une sorte comme ça de narcissisme très pointu, non ?
Oui, je crois que effectivement, on est dans du mauvais narcissisme là, c'est-à-dire soit de l'hyper-narcissisme, soit de l'hyponarcissisme, soit la volonté de montrer qu'on est sans arrêt sollicité par des amis à dîner, une réunion avec d'anciens camarades, le Louvre, le Taj Mahal, etc. Donc là, c'est la volonté de montrer qu'on est extraordinaire. Et puis, ça peut être de l'hyponarcissisme, c'est-à-dire l'idée qu'on n'est pas suffisamment extraordinaire, justement, et qu'on se dit, ben, peut-être par ce biais-là, je vais me faire valoir. Donc, dans les deux cas, on est devant des gens qui ont un problème identitaire, qui ont une souffrance par rapport à ce qu'ils sont, et qui essayent de trouver des solutions, mais ça les isole tout autant.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que, vous êtes d'accord, c'est quelque chose qui va vers l'extérieur, alors que finalement, il faut aller vers l'intérieur pour se sentir mieux.
Oui, voilà, c'est un signe, alors bien évidemment, quand c'est excessif, hein, ceci étant, on peut très bien se faire prendre en photo... Une fois de temps en temps, c'est pas grave, mais à chaque fois qu'il y a des excès, c'est là où il faut se poser des questions.
Alors, il y a également ce besoin de sans cesse aller voir sur son téléphone, parfois même alors qu'on est en train de déjeuner avec un ami ou son partenaire. Là aussi, c'est finalement introduire le tiers, comme on dirait en psychanalyse, non ?
Oui, tout à fait, introduire le tiers, mais je crois aussi que c'est une façon d'être dans l'illusion d'un cordon ombilical. Je crois que c'est vraiment une quête affective qui est sans fin, puisque ce n'est pas la bonne solution. Donc, on pense que c'est qu'on n'en a pas fait assez, donc on continue.
C'est une tétine, quoi.
Voilà, non, pire que ça, c'est un cordon ombilical, c'est-à-dire je suis reliée à d'autres en permanence. Quoi. Mmh. Je suis alimentée en permanence dans le ventre de ma mère, et là, je suis alimentée en permanence par les autres. Et c'est l'illusion que la quantité de likes va supplanter la qualité. C'est like moi ou je meurs, quoi. C'est voilà. Donc c'est douloureux et c'est un signe de grande souffrance. Et c'est, vous aviez raison en lançant le sujet, c'est une addiction qui malheureusement ne règle rien. Voilà, c'est un mauvais médicament.
Oui, comme toute addiction, elle signale un vide, mais malheureusement, c'est pas l'addiction qui remplit ce vide.
Non. Oui.
Alors dernier point, quand on parle des nouvelles technologies, c'est évidemment ces sites de rencontres de plus en plus nombreux qui sont très utilisés par les gens et qui finalement ont complètement changé le désir de rencontre. On en a parlé en préparant l'émission, Hélène Vecchiali. Finalement, on veut plus rencontrer quelqu'un pour consommer une relation sexuelle que finalement avoir un rapport sexuel parce qu'on est dans le désir.
Oui, je crois que, bien évidemment, sur les sites de rencontre, il peut y avoir l'inconscient. Peut se glisser partout, et les miracles aussi, et tout le monde a. Moi, j'ai par exemple dans mon entourage deux couples qui se sont rencontrés sur des sites et qui durent, hein, et qui sont des vrais couples. Mais c'est vrai que là aussi, on est dans la quantité, et que souvent, les gens, face à cette quantité et des déceptions successives, finissent par se dire, bon, bah, pourquoi pas celui-là ou pourquoi pas celle-là, avec une espèce d'obligation de rentabiliser
le résultat
et d'être déçu, quoi. C'est compliqué. Et puis, ce qui est compliqué aussi, c'est que là, tous les fantasmes sont présents. C'est-à-dire que dans une rencontre, dans la vraie vie, il y a la surprise, il y a finalement, on découvre quelqu'un, on s'y attendait pas et on n'a pas eu le temps d'imaginer quoi que ce soit. Tandis que là, les rencontres se font avec deux personnes qui ont fantasmé un maximum chacune de leur côté sur juste une photo, juste peut-être un petit peu de parole au téléphone et pas grand-chose d'autre, quoi.
Oui, et puis ce qui est surtout dommage, c'est que finalement chacun va mettre ses critères, pensant que c'est ces critères-là qui font qu'on va avoir une belle relation, alors qu'au fond, quand on réfléchit bien, si on fait le point sur les rencontres qu'on a eues, si on avait mis des critères, ça n'aurait pas fonctionné,
oui,
avec telle personne.
Oui, parce que nos désirs relèvent de notre inconscient, et par définition, l'inconscient n'est pas conscient. Et donc, quelquefois, on se dit, il faut absolument que je rencontre un jardinier, et puis parce que j'aime les fleurs et que ça va m'épanouir, et finalement, on va rencontrer un plombier et on va être super heureuse. Je caricature, bien sûr, mais j'avais une amie qui avait rencontré un compagnon il y a longtemps comme ça, et ça marchait pas, et elle me disait, mais pourtant, il coche toutes les cases. Et ça, c'est spectaculaire, parce que effectivement, elle avait fait sa liste au Père Noël, il cochait toutes les cases, et puis ça fonctionnait pas, et elle était très malheureuse, et elle voulait à tout prix que ça marche, parce que toutes les cases étaient cochées. Donc on voit bien que, heureusement, on maîtrise pas tout de nous, et en particulier le désir. Hein. Le désir, c'est quelque chose qui arrive à notre insu, qui est sacré au sens profane du terme. C'est quelque chose qui nous dépasse, et là, on peut pas décrire justement ce qui nous manque et qui fait que le désir va advenir.
Bien sûr, d'où cette nécessité quand même, quand on va sur les sites de rencontres, de laisser un peu la surprise prendre le pas sur le côté très rationnel des choses. Et puis ce que je rencontre aussi dans les témoignages que j'entends, c'est que finalement, ces sites de rencontres nuisent énormément à l'engagement, parce que comme si de toute façon, on pouvait quand même toujours trouver mieux, ou comme si de toute façon s'engager, c'était plus le but de
oui,
la relation.
Effectivement, ça peut être compliqué, et beaucoup de personnes racontent que elles ont rencontré quelqu'un et puis qu'elles se sont rendues compte que la personne continuait à aller sur le site pendant ce temps, en se disant, on sait jamais, je peux avoir mieux, quoi. Donc oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'est pas du tout éduqué pour ça. On n'est pas, il y a pas de formation au site de rencontre. Et donc chacun y va avec ses souhaits, ses besoins, ses envies, et puis surtout il n'y a aucune sécurité, c'est-à-dire l'autre qui est en face. Quand on rencontre un groupe d'amis et puis qu'il y a une personne qui nous plaît à l'intérieur, on se sent en sécurité puisque les autres les connaissent, on sait ils savent d'où ils viennent, etc. Là on est dans l'inconnu absolu, quoi, hein. D'où la nécessité de se rencontrer dans des lieux publics pour éviter les surprises. Mais voilà, et puis il y a des déceptions. Ça peut être des belles découvertes, mais ça peut être aussi beaucoup de déconvenues.
Et on va parler dans un instant également des forums, hein, qui sont de plus en plus nombreux sur Internet et qui sont aussi des manières de communiquer de façon virtuelle, avec Charlie qui sera en ligne avec nous dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Hélène Vecchiali est avec nous. Eh bien, vous le savez, vous pouvez également nous envoyer un mail, réagir sur Twitter, Facebook. Enfin voilà, c'est ça maintenant, hein, les médias. On peut réagir de tous côtés de manière à rester reliés ensemble. Hélène Vecchiali, c'est Charlie qui est avec nous. Et Charlie, je crois que vous êtes modérateur de forum, hein, c'est bien ça? Bonjour Charlie.
Tout à fait, bonjour. Bonjour, Brigitte.
Bonjour. Merci d'être avec nous.
Bonjour.
Et donc justement, vous faites ce métier depuis combien de temps?
Une dizaine d'années, un peu plus même.
D'accord. Et alors, ça a évolué? Qu'est-ce que vous avez constaté?
Faire un forum, c'est très facile au début. C'est à la portée de tout le monde qui sait un petit peu manipuler Internet. Après, on rencontre des problèmes qui ne sont pas techniques, mais qui sont humains.
Mm-hmm.
Alors, heureusement, ça n'arrive pas tous les jours, mais ça peut parfois avoir des retentissements vraiment, vraiment inattendus jusqu'au jour où j'ai eu un coup de fil de la gendarmerie en pleine nuit.
Et donc pourquoi? Oui, parce que votre rôle, hein, que tout le monde comprenne bien, c'est d'éliminer toute personne qui aurait des propos racistes, insultants, enfin, c'est bien ça. Hein.
Ouais, là encore, je dirais, c'est facile, mais c'est beaucoup plus pernicieux que ça. Donc en fait, un forum, il faut voir ça comme un petit peu comme le café du commerce où se réunissent tous les passionnés d'un domaine donné.
Ouais.
Alors en l'occurrence, c'est la moto par exemple.
Ouais.
Et les gens aiment bien se retrouver là le soir après le travail, un petit peu comme une association, un café, voilà. Et on a parfois certains individus qui arrivent avec un profil de pervers narcissique.
D'accord, bah alors ça va intéresser Hélène, hein, puisque Hélène a écrit un livre sur les pervers narcissiques. Donc,
Vous pouvez donner un exemple précis?
Moi j'ai l'exemple sur mon site, mais ça m'a complètement dépassé. Et pourtant j'avais une certaine expérience de quelqu'un qui a su fédérer autour de lui un certain nombre de membres.
Oui.
Et les monter contre le modérateur que je suis.
Concrètement, qu'est-ce qu'il écrivait?
En fait, tout ce que je pouvais avoir comme argument était retourné contre moi.
Mmh.
Et, alors, j'ai plus de souvenirs précis, si ce n'est que j'en ai gardé un souvenir plutôt mauvais et que j'ai été content quand la personne est partie. Sauf qu'elle a emmené avec elle une bonne partie des membres du forum.
Oui, oui, ça ressemble assez à quelqu'un d'un peu pervers, hein,
oui,
dans ce que vous dites, bien sûr.
On pourra voir un petit peu la même chose dans un parti politique où il y aura un dissident qui s'opposerait à la ligne du parti et qui fédérerait un certain nombre de membres.
Oui, mais en même temps, on peut comprendre que sur les forums, il y a des gens qui vont à la pêche pour créer leur propre forum, en fait. Mais ce sont des méthodes pas très correctes et pas très éthiques, on est d'accord.
Oui,
je suis pas en train de le justifier, hein. Je dis juste que ça me surprend pas que ça existe.
Bon, on n'est pas pervers narcissique par calcul.
C'est identitaire, hein. C'est pas acquis, c'est quasiment inné.
Et non guérissable.
Non guérissable, oui.
Mmh. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez eu affaire aux gendarmes?
C'est la question que je voulais poser.
Parfois, certaines personnes sont vraiment touchées dans leur âme, dans un forum, par les agissements d'autres personnes. C'est-à-dire que même si c'est virtuel, même si ces personnes-là ne se rencontrent pas, ne se parlent jamais de vive voix, ne communiquent entre elles que par le biais d'un... Ils ne s'écrivent même pas directement entre eux par mail ou par courrier papier. Ils passent toujours par l'intermédiaire d'un forum, d'un site internet. Certaines personnes sont très, très blessées par les propos d'autres personnes. Ça touche autant que si c'était, je dirais, entre guillemets, dans la vraie vie.
D'accord, mais comment ça vous amène chez les gendarmes?
Oh, je n'ai plus le souvenir, le détail, mais je ne saurais plus dire.
On a porté plainte contre vous?
C'était pour que les gendarmes fassent pression sur moi par quelqu'un qui connaissait des gendarmes.
Bon, en tout cas...
Pour essayer de m'impressionner, en quelque sorte, quoi.
En tout cas, ça vous a visiblement marqué. Vous avez compris que l'être humain n'est pas fondamentalement bon
non,
par cette expérience sur les réseaux.
La grosse difficulté sur les forums, par rapport à la vraie vie, dans la vraie vie, quand vous voyez une personne qui arrive dans un groupe quelconque, je ne sais pas moi, de gens qui font une activité culturelle dans une commune, de la danse de salon, des choses comme ça, ou un groupe de vélo cyclotouristes, par exemple. Vous voyez la personne, vous voyez comment elle est habillée, comment elle se comporte, quel âge elle a, quel soin elle porte à sa personne, comment elle s'exprime. Sur un forum, on ne voit pas tout ça. Dans la vraie vie, on est capable de jauger, parfois à tort, quelqu'un en une seconde ou deux.
Oui, sans compter qu'on peut prendre des pseudonymes, très souvent d'ailleurs.
Hein. Oui, c'est souvent anonyme. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment vous faites pour intervenir. Vous ne pouvez pas lire tous les forums, tous les messages. C'est quelqu'un qui vous alerte ?
Alors, sur certains forums qui sont pas trop gros, je lis absolument tout. Sur les forums bon, par contre sur d'autres que j'ai lancés et qui sont devenus très importants, j'ai heureusement des modérateurs. Donc c'est des membres parmi les forums
qui vous alertent lorsqu'il y a quelque chose qui dysfonctionne.
Ça va plus loin que ça. Ils font plus qu'alerter, ils gèrent à ma place. Ils sont modérateurs.
D'accord.
Alors, c'est pas évident de trouver des modérateurs. Ça, là encore, faut faire attention à pas confier cette responsabilité à certaines personnes qui seraient pas en mesure de le faire sainement.
Bien sûr. Ben merci Charlie, en tout cas, de votre témoignage. On pourrait dire la même chose des réseaux sociaux, évidemment. Hein. Alors, est-ce que c'est comme ça dans la vraie vie ? Certainement que non. Hein. Certainement que le fait d'être anonyme permet plus de violence,
oui,
plus de
tout à fait,
débordement.
Parce que dans la vraie vie, on peut se justifier, il y a un dialogue et il peut y avoir une mise au point. Et puis surtout, les propos sont rarement aussi violents.
Bien sûr. Merci beaucoup Charlie. On retrouve Ambre, notre Sexy News, dans un instant.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News.
Eh bien, Hélène Vecchiali, on retrouve Ambre. Et Ambre, ça tombe bien puisque ce n'est pas un homme. Hein. Vous aimez bien quand c'est un homme, mon invité. Comme ce n'est pas un homme, on va pouvoir parler de asexualité.
Oui, mais je voulais quand même ajouter que j'aime beaucoup Hélène Vecchiali, que j'ai participé avec elle à une émission à plusieurs reprises. Et j'adore sa voix.
Voilà, merci ça, Ambre. Merci beaucoup.
Donc, je vais parler de l'asexualité aujourd'hui. La sexualité, c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur.
C'est vrai.
C'est né à peu près dans les années 2000. Et je voulais en parler parce qu'on n'en parle pas souvent dans les émissions. Et puisqu'on parle de réseaux sociaux aujourd'hui, sachez que pour préparer cette émission, j'ai été sur plein de réseaux sociaux, plein de forums qui parlent de la sexualité parce que c'est un groupe qui existe, qui représente 1% de la population quand même et qui est beaucoup sur Internet, voilà, parce qu'il se cache en fait, on a l'impression qu'il se cache aujourd'hui. Donc j'ai été beaucoup sur Internet pour parler avec eux, j'ai discuté avec plusieurs d'entre eux, et puis pour essayer de vous expliquer un petit peu ce que c'était. Les avis des chercheurs, des médecins sont en train de changer sur la sexualité. Auparavant, les médecins disaient...
Vous allez dire la non-sexualité, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que vous parlez de sexualité.
Oui, c'est la non-sexualité, parce qu'un asexuel, en fait, dans son sens le plus large, c'est une personne qui ne ressent aucune attirance sexuelle pour une autre personne. Voilà.
Qui peut avoir de l'amour, hein. c'est ce qui
tout
est important
fait, tout
à dire.
À fait. Tout à fait. Et il a vraiment un gros désintérêt pour le sexe. Et c'est comme ça qu'il se revendique. Avant, on disait que c'était pas une orientation sexuelle. Donc je disais que quand c'est né dans les années 2000, les médecins essayaient d'expliquer par des problèmes psychos ou des problèmes physio qu'ils avaient des troubles du désir, des troubles hormonaux, etc. Mais en fait, aujourd'hui, toute cette communauté est en train de se revendiquer comme étant une réelle orientation sexuelle. Tout comme les homosexuels, les bisexuels, les pansexuels, les hétérosexuels, et je ne sais pas si j'en ai oublié. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça représente 1% de la population, et ce qui est intéressant, c'est de comprendre et de savoir aussi que...
Est-ce qu'on a autant d'hommes que de femmes ?
Voilà, justement. Bah, Brigitte, elle anticipe toujours ce que
mais
je veux
dire. Mais
non,
mais je pose les questions qui m'intéressent. Elle pose des questions intelligentes, comme d'habitude.
Elle est juste connectée avec moi. En fait, il y a 56% de femmes sur ces 1%. Ça représente quand même une majorité de femmes.
Oh, je pensais plus, moi. Quand on sait que... Non, mais Ambre, on sait qu'il y a plus de femmes que d'hommes, donc a priori, on doit avoir le
moitié-moitié, quoi.
Moitié-moitié, oui.
Eh ben, ouais, moitié-moitié, mais il y a aussi 34% qui sont les transgenres.
Ah oui, d'accord.
Et qui se revendiquent.
Oui, oui, oui. Ah ben ça, c'est pas surprenant, mais c'est intéressant de le signaler, oui.
Voilà, et bien évidemment, ils font une recherche de leur sexe et donc de leur sexualité, et au départ, ils se revendiquent complètement.
Donc, attendez, qu'on comprenne bien. Donc, il y a 56% de femmes, 34% de transgenres, et alors, il ne reste plus beaucoup d'hommes.
12%.
Ah bah oui. Ah oui, donc là, en effet...
Oui, donc ça rejoint bien ce qu'on imaginait, quoi.
Donc, il y a nettement plus de femmes, oui.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi qu'on a 86% qui ont moins de 30 ans.
Oui.
C'est là où on voit que c'est un phénomène très nouveau, qui est né dans les années 2000. Alors, c'est distinct de l'abstinence sexuelle, puisque l'abstinence sexuelle, c'est quelqu'un qui n'a pas, et qui le sait, qui le revendique, je ne veux pas faire l'amour avec quelqu'un, je m'abstiens parce que j'ai des croyances religieuses ou personnelles. Et par contre, les asexuels, ils ne veulent pas s'abstenir, ils disent « non, moi je n'ai pas de désir. Je te vois, je te regarde, je te trouve beau, je te trouve belle, j'ai envie de te prendre en photo, mais ça s'arrête là. » Je ne bande pas pour toi, je ne mouille pas pour toi, je n'ai aucun désir sexuel. Les asexuels me disent, me racontent que leur asexualité serait née dans l'enfance, entre 6 et 10 ans. Là, ils ont ressenti comme un désintérêt de la sexualité. Mais c'est en général ce que les enfants ressentent.
6 à 10 ans, normalement, si on est...
Tous les enfants, voilà.
Tous les enfants sont asexuels. Hein.
Exactement. Et ce qui fait la différence avec les autres, c'est qu'au moment de l'adolescence, eh bien, ce désintérêt pour la sexualité, ce désintérêt pour le sexe, il reste. À l'adolescence, alors que tous les amis, copines, copains, commencent à avoir les hormones qui les travaillent, etc.
Mais,
ça
voudrait dire, Ambre, que dans ces 56% de femmes, par exemple, elles sont pratiquement toutes vierges.
Oui, alors, j'allais le dire aussi, certaines asexuelles font l'amour. Il y a des couples mixtes qui se forment parce que, bien évidemment, ça va être dur de trouver quelqu'un qui a la même orientation sexuelle que soi, surtout si on a envie de fonder une famille, etc. Donc, à un moment donné, pour faire un enfant, il faut faire l'amour. Et ces gens-là qui se revendiquent asexuels se mettent en couple et, en général, ne trouvent pas un partenaire qui a la même orientation sexuelle qu'eux, plutôt hétéro, plutôt bi, enfin bref. Et,
mais là, il y a erreur sur la marchandise.
Elle m'expliquait qu'elle se forçait. Elles se forçaient parce qu'elles savent que pour préserver leur couple, elles doivent leur faire plaisir. Et comme monsieur a des besoins, c'est souvent les femmes qui m'ont parlé, elles se forçaient à faire la même si elles ne ressentaient pas de désir. Alors, je leur ai demandé, je leur ai dit, mais comment ça se passe l'acte sexuel? Qu'est-ce que vous ressentez? Et on m'explique, c'est intéressant de discuter avec ces personnes-là, que au départ, je ressens rien quand on me touche. Et puis, au moment où ça se passe, je vois que l'autre a un orgasme, moi, je ressens rien. Et puis, il y a quand même un petit peu de plaisir, mais à la fin, je suis contente que ça se termine. Et je me dis, la prochaine fois, j'espère que ce sera dans 3 mois. Voilà. C'est réellement un non-désir de l'autre. J'ai pas envie, je t'aime, vraiment, je t'aime, mais j'ai pas envie de coucher avec toi. J'ai pas envie d'avoir une relation sexuelle avec toi. Et ce que vous disiez tout à l'heure justement, Brigitte, c'est qu'ils se revendiquent le droit d'être amoureux quand même, ces gens-là. Mmh. Donc ils s'appellent les romantiques. Les romantiques, il y a des homo-romantiques, il y a des bi-romantiques, il y a des hétéro-romantiques. Et puis il y a ceux qui ne revendiquent aussi le fait de ne pas du tout être romantique et de ne pas tomber amoureux parce que rien ne les intéresse. Voilà.
On pourrait quand même penser, non, Hélène Vécalix, c'est une sorte de contre-courant à cette époque qui a été très, très, très sexuelle, non?
J'ai l'impression, moi, je connais absolument personne dans ce cas-là et j'ai pas fait les recherches que Ambre a faites, hein, donc je dis ce que je ressens là. Je crois que ça doit être au cas par cas. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui, dans la petite enfance, ont été choqués, par exemple, qui ont assisté à une relation sexuelle entre leurs parents. Et ça a été un gros traumatisme. Ou ça peut être des enfants qui ont été approchés par un membre de la famille qui a... Et puis, il peut y avoir tout un tas d'autres choses au moment de l'adolescence, enfin. Et puis, il y a peut-être des gens qui naissent comme ça. Donc, j'ai l'impression, moi, enfin, je dirais que ça doit être vraiment au cas par cas. D'ailleurs, dans ce que dit Ambre, c'est assez varié, hein, la population entre les femmes, les trans, les bi, les pans, etc. Donc, ouais. Je crois que ça doit être vraiment au cas par cas. Et dans le lot, il doit y avoir des gens qui se protègent psychologiquement, parce que la rencontre sexuelle, c'est quand même la rencontre la plus intime qu'on puisse faire avec l'autre. Enfin, je dis des truismes, là, des évidences, hein, mais c'est là où on est à la fois dans le plus grand danger et à la fois dans le plus grand plaisir, mais on se livre, on se met à nu au sens propre comme au sens figuré. Donc, dans ces moments-là, on est d'une vulnérabilité incroyable. Si on a du désir et si on attend du désir de l'autre, on est vraiment au cœur de l'intime. Et donc, pour ceux qui sont inquiets, c'est le danger absolu.
Mais ce qu'on peut quand même remarquer, Ambre, c'est que finalement, on a mis une étiquette sur un groupe de population qui est finalement, je suis assez d'accord, Hélène, assez hétéroclite. Mais on sait très bien, par exemple, que les trans, souvent, la sexualité chez les trans est très faible, voire même totalement totalement absente. Donc, c'est pas surprenant que 34% des asexuels soient trans. Après, 56% de femmes, on sait très bien que beaucoup de femmes renoncent plus à la sexualité que les hommes. Après, c'est 12% d'hommes, ça ne doit pas représenter grand-chose, puisque c'est 1% d'asexuels, 12% d'1%, ça ne fait pas finalement beaucoup.
Ça fait pas beaucoup, oui.
Ça fait pas beaucoup d'hommes.
J'ai oublié de dire quelque chose de super important, parce que je sais que certaines personnes m'écoutent et ont eu envie que je parle de ce sujet, puisque j'en ai rencontré aussi sur d'autres forums. Il y a de la masturbation chez ces gens-là. Et quand ils ont envie de se masturber, ils le font, et pour eux, c'est un besoin physiologique. Voilà, il y a rien qui va, il y a pas un désir de, enfin,
comment, oui, il y a pas de fantasme, ça repose pas,
voilà.
C'est ça,
c'est
ça repose pas sur quelque chose, enfin ça repose sur rien, quoi. C'est juste comme ils vont uriner, ils se masturbent, quoi.
C'est ça. Moi, je me suis demandé en préparant cette chronique si la sexualité n'avait pas toujours existé et si les gens n'étaient pas passés au travers de l'histoire comme des invisibles, en fait, parce que en continuant mes petites recherches.
Mais moi, je peux parler de quelqu'un, parce qu'il s'en est jamais caché, que j'ai donc rencontré. C'est Paul Prébois, hein, qui n'a jamais eu de relation sexuelle, oui. et qui se vivait très très bien comme ça. Ce qui était rigolo, c'est qu'il travaillait beaucoup avec Patrick Sébastien, qui n'est pas vraiment un asexuel. et c'était drôle, parce qu'il était, il était ravi d'être comme ça, et il s'en est jamais caché. Hein. Et là, je crois qu'en effet, c'était quelque chose. Alors après, je ne l'ai pas allongé sur un divan.
Pourquoi faire sur le divan?
Oui. Il aurait eu trop peur.
Il y a eu d'autres personnes célèbres que les auditeurs certainement connaissent. Il y a Michael Jackson qui était certainement asexuel, et c'est même
Brooke. Alors lui, il a certainement subi des abus sexuels. Hein,
oui,
enfin,
oui.
On en a. Enfin, je l'affirme pas, hein, mais je pense que là, c'est plus cette origine-là qui peut expliquer son asexualité.
Il y a Chopin aussi. Et George Sand disait de lui que ce pianiste était au lit aussi froid avec elle que l'aurait été un cadavre.
Oui, mais il n'était pas asexuel quand même, puisqu'ils ont quand même eu des rapports sexuels avec George Sand.
Oui,
il me semble
que
c'était pas quelque chose qui l'intéressait.
Oui, mais enfin, s'il y est arrivé, c'est qu'il n'était pas asexuel.
Oui, genre, mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, les asexuels quand même, il y en a qui ont des rapports sexuels et qui se forcent. Mmh. Voilà.
Pour une femme, on peut comprendre qu'elle arrive à se forcer, mais pour un homme, il va bien falloir être actif.
Bah, c'est ce que George Sand disait, que c'était un cadavre, qu'il était très froid. Il y avait Isaac Newton, qui toute sa vie a été célibataire et qui se revendiquait comme asexuel. Il y a Voltaire aussi, qui était comme ça. Et puis il y a Kant, qui est resté vierge toute sa vie.
Ça ne me surprend pas. Oui.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un phénomène qui s'appelle la sublimation, qui est assez intéressant, c'est-à-dire lorsque la libido est vraiment très intense et qu'on n'arrive pas à l'assouvir concrètement, eh bien, on va sublimer. C'est-à-dire que c'est là où on va être dans la créativité, les arts, la musique, la peinture, etc. Enfin, la sublimation va permettre justement d'évacuer des pulsions qu'on ne peut pas évacuer concrètement par ailleurs. Donc peut-être qu'il faudrait regarder dans tous les gens, chez tous les gens créatifs, quelle est leur vie sexuelle, et on découvrirait peut-être une asexualité latente, oui. Je ne sais pas.
Oui. Pour terminer sur cette chronique, je voudrais dire qu'il y a une journée qui existe, une journée mondiale, qui est le 26 avril. Si les gens sont intéressés. Et il y a de plus en plus de gens qui se réunissent dans des endroits partout en France. Et puis, vous pouvez aller sur Internet et consulter le site AVEN, A-V-E-N, qui est mondial.
Non, merci, ça ne m'intéresse pas.
Voilà.
Et ça voilà. M'étonne que ça vous intéresse tant que ça, Ambre.
Mais moi, je me pose des questions. Je me suis posé des questions, vraiment.
Vous avez envie de basculer dans ce groupe, c'est ça?
Oh, peut-être, et je vais sublimer par la création justement, toute ma libido. Mais je me pose des questions parce que moi qui suis une personne très 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 branchée sur la sexualité, je me suis dit mais comment, quand on est une personne sexuée, on peut avoir aucun désir? Et ça me pose question, et je me suis dit ben, peut-être qu'il faut réfléchir à l'autre et se dire que il est primordial d'écouter l'autre et de se dire qu'il n'est pas forcément comme soi. Et en l'écoutant, ben, on arrivera peut-être à mieux communiquer, à faire des couples plus heureux, etc. Parce que je me suis dit, franchement, dans des couples, quand j'entends des hommes qui se plaignent de dire leur femme n'a pas de libido, etc., je me demande s'ils ne sont pas tombés justement sur une femme qui peut être asexuelle. Et peut-être l'écouter
là,
plus.
Là, vous êtes en train de donner des pistes à plein de femmes qui nous écoutent et qui n'ont plus envie de faire l'amour. Ambre, vous allez être détestée par beaucoup d'hommes ce soir, Ambre.
C'est... Bref, messieurs, écoutez plus vos femmes.
Non, mais encore une fois, c'est vrai que la sexualité n'est pas un besoin vital. On peut très bien vivre sans sexe. Voilà, maintenant, vivre sans désir, ça, j'y crois pas beaucoup. Et c'est peut-être la différence que j'aurais envie de faire. On peut vivre sans sexe, mais vivre sans désir, ça ne me paraît pas une vie très, très agréable. Mais on peut avoir du désir pour autre chose que pour le sexe.
Non, comme disait Hélène tout à l'heure, effectivement, le désir, il doit être transposé sur quelque chose d'autre, effectivement.
Espérons pour eux, espérons. Merci beaucoup Ambre, merci.
Merci Ambre.
On va revenir sur l'addiction et notamment sur les jeux sur téléphone avec Frédéric qui sera avec nous dans un instant.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Hélène Vecchiali est mon invitée et vous pouvez bien sûr, si vous avez envie de réagir sur la sexualité, donc la non-sexualité, vous pouvez hein, bien sûr sur Sud Radio 0826 300 300. Mais on va revenir sur les jeux sur téléphone avec vous, Frédéric, bonjour.
Bonjour Brigitte, bonjour Hélène.
Bonjour.
Bonjour, oui, donc moi ce que je pensais c'est les jeux arrivent naturellement à nous maintenant. Avant, on allait les chercher, nous, quand j'étais plus jeune, hein, parce que je suis un peu la génération des consoles, je suis arrivé avec. Donc, on allait les chercher chez les marchands de jeux. On a même la possibilité d'aller faire les essais sur place et tout, mais maintenant, on les a en ligne, on les télécharge gratuitement. Et on a des jeux qui arrivent addictifs. Et qui sont même, comme j'expliquais à la personne que j'ai eue au standard, qu'ils vous rappellent à l'ordre en plus. Parce que à certains moments, vous avez des sonneries pour vous dire rappelle-toi que je suis là, quoi. Donc ils sont là, donc vous revenez dessus et ils vous mettent en place aussi des défis. Bon, excusez-moi, j'ai pas trop de voix, donc j'ai.
Non, mais on vous entend très bien, Frédéric, il n'y a pas de souci.
Merci. Donc, je vous dis, ils vous mettent en place des défis qui font que vous y reveniez. C'est pas comme. Je pense que c'est un peu plus. C'est pas comme, par exemple, l'addiction à l'alcool ou à la cigarette, où on se rend bien compte que c'est un mal. Là, on s'en rend compte. Mais là, le jeu, c'est un bien qui fait du mal. C'est pas pareil.
Mais Frédéric, je crois qu'encore une fois, tout est fait pour que vous tombiez dans la dépendance du jeu, ce qui semble être votre cas. Alors après, c'est pas un bien qui fait un mal, c'est un loisir qui, à un moment donné, s'il prend trop d'espace dans votre vie, devient en effet un handicap. Mais c'est pareil avec l'alcool, on peut boire un verre et trouver ça agréable, c'est l'abus qui devient nocif.
Bien sûr. Hein.
Donc je crois que l'addiction, c'est vraiment ça, c'est quand on considère que
quand
ça devient... Que
c'est trop, excessif.
Moi, enfin, je sais pas vraiment si c'est devenu une addiction, parce que disons que moi j'arrive très bien à faire la part entre le moment du jeu et le moment du travail. Si c'est le travail, le jeu, je le zappe total, il ne prend pas le pas sur le travail. Mais par contre, sur tous mes temps libres, c'est le jeu. Donc s'il y a un moment libre, c'est le jeu.
Vous vivez seul ?
Non, je suis en couple et j'ai des enfants, et pourtant c'est compliqué de leur dire à eux de pas le faire, puisque moi, ils voient très bien que je prends le téléphone très facilement pour aller faire un jeu.
On va dire que vous êtes juste à la limite de ce qui pourrait être une addiction. Vous n'êtes pas encore dedans, puisque vous arrivez à le contrôler quand il y a du travail, mais en revanche, ça prend peut-être un peu trop d'espace dans votre temps libre, ce qui fait que vous avez peut-être pas assez le temps de vous consacrer à votre famille. Est-ce qu'on pourrait dire
voilà,
ça ?
Voilà, c'est ça. C'est ça. J'ai pas de temps pour faire un tour dehors, j'ai pas de temps pour faire un jeu de plein air, ça ne m'intéresse même pas. Vous me donnez le choix, c'est sans hésitation de prendre le jeu, hein, direct.
Et qu'en pense votre femme et qu'en pensent vos enfants ?
Ben, ma femme, je dirais presque qu'elle a un double discours, parce qu'elle me le reproche, mais... C'est pas pareil, mais elle a quand même ses petites faiblesses par rapport au jeu aussi. Alors quand elle me le dit, j'ai dit, t'es bien maligne de me le dire, parce que tu le fais aussi. Donc, mais c'est vrai que c'est peut-être moins souvent que moi, par contre, elle est beaucoup moins dessus.
Oui, et vos enfants, vous leur consacrez combien de temps ? Si on devait faire un pourcentage dans votre temps libre, combien de pourcentage pour les enfants et combien de pourcentage pour le jeu ?
C'est pas... Je dirais que je ne consacre pas beaucoup de temps, mais bon, d'un autre côté, c'est pas à cause du jeu, parce que je travaille de nuit. Le jour, il faut que je me repose, donc je suis pas, je sais pas. C'est un peu plus mon activité professionnelle qui fait que la vie de famille est un petit peu reléguée au second plan. Mais c'est pas vraiment la faute principale au jeu, quoi, ça.
Mais Frédéric, c'est compliqué. Moi, j'affirmerais pas que vous êtes dans l'addiction. Mais j'affirmerais que vous avez un peu honte d'aller plus sur les jeux que vous ne voudriez.
Est-ce que ça... Je sais pas si c'est une honte, parce que je prends vraiment beaucoup de plaisir à être dessus. Ça me permet vraiment de relâcher, parce que je suis routier. Je suis donc quand je suis dans mon travail, j'y suis à 100%. Je m'accorde aucun temps de repos pour moi personnellement. Ouais. Et une fois que je suis à la maison,
c'est votre détente.
Voilà, c'est
votre on pourrait dire que c'est votre récompense ?
Oui, plutôt oui.
Bon, si vous considérez que c'est votre récompense et que bon an mal an vous consacrez suffisamment quand même de temps à ceux qui sont proches de vous, et si vous ne mettez pas votre santé en danger, par exemple en ne dormant pas assez et donc en prenant le volant le lendemain. Je vois pas pourquoi on va vous juger. Après tout, vous faites ce que vous voulez de votre temps libre.
Bien sûr.
Vous voyez, je crois qu'il faudrait...
Je dirais juste quand même, vos enfants ont quel âge ?
10 ans, 13 ans et 15 ans.
D'accord.
Donc le grand, par contre, passe beaucoup de temps sur son téléphone. C'est le seul qu'on a un, d'ailleurs, parce que moi, j'ai toujours considéré que le téléphone, c'est seulement une utilité. Et si c'est juste pour le plaisir d'en avoir un comme les copains, c'est pas la peine. Donc mon fils a eu son téléphone, c'est même pas son premier, c'est le seul, parce qu'il était en internat. Et que le soir, quand il était un petit peu, il sentait un peu seul, qu'il puisse nous joindre. Ou alors même, mais c'est vraiment parce qu'il y a eu une condition. C'était pas le fait d'avoir un téléphone pour un téléphone.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimez, pour lesquelles vous avez du désir, à part les jeux sur votre téléphone ?
Quand on parle de désir, tout de suite, on y est.
Bien vous sûr. Pensez à quoi, Frédéric ?
Bien sûr qu'on va penser au sexe, mais bien sûr.
Bon,
bien sûr,
et de ce côté-là, vous avez suffisamment, ça va ?
Oui. Bon. Ça, là-dessus, il n'y a aucun souci.
Et vous aimez, s'il faut choisir entre le jeu et le sexe, vous choisissez quoi ?
Ah non, ça sera le sexe, bien sûr.
Alors ça va, vous n'êtes pas complètement atteint, Frédéric, tout va bien.
Non, Je sais bien que je suis pas dans une addiction, mais le fait que le jeu prend le pas dans tous les moments de détente, c'est quand même bon. Enfin, pas tous, bien sûr, parce que s'il y a un petit moment câlin, bien sûr que ça sera automatiquement.
Moi, je pense que il faudrait juste que vous appreniez à réguler un tout petit peu de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte que vous avez quand même encore le contrôle par rapport à ça. C'est-à-dire que peut-être que vous pourriez privilégier des jeux de plus grande qualité ou d'essayer de vous mettre des défis de manière à reprendre du contrôle et ne pas être dépendant en quelque sorte de ce signal qu'on vous envoie. Voyez ce que je veux dire ?
J'irais jusqu'à dire même depuis une petite semaine, on a remis en place les jeux de société.
Très bien.
Voilà, moi depuis que vous parlez, je m'inquiétais plus de vos enfants qui ont besoin, surtout si vous faites un métier qui est quand même lourd et pénible et où on comprend bien que vous avez besoin de détente, mais les enfants ont besoin d'un papa et de pouvoir participer à des choses, partager des choses avec lui. Et c'est vrai que ça vous permettrait et ça permettrait à votre fils aîné d'arriver à être plus dans le partage, l'échange, le dialogue que dans du plaisir solitaire.
Bon, donc finalement, tout a l'air de prendre quand même le bon chemin. Merci Frédéric, on se retrouve après les infos. On va revenir bien sûr sur ces nouvelles technologies qui changent nos rapports aux autres. Et vous pouvez témoigner bien sûr 0826 300 300. À tout de suite.
14h, 16h, Brigitte Lahaye. Sud Radio.
Nous évoquons en compagnie de Hélène Vecchiali, psychanalyste, auteure de nombreux ouvrages, notamment Maître les pervers, échec et mat, aux éditions Marabout, qui est sorti en poche et qui a été un très grand succès. J'allais dire malheureusement, parce que ça veut bien dire que ce sujet intéresse et est au cœur du débat pour beaucoup de gens. Votre dernier livre, c'est Moi, moi et moi, aux éditions Marabout. Vous parlez justement de cette société de plus en plus narcissique, ce qui m'a donné l'idée de ce sujet aujourd'hui sur les nouvelles technologies qui ont changé, hein, ça c'est une réalité, qui ont changé nos rapports aux autres. On n'a pas trop évoqué jusqu'à présent les amis sur Facebook ni les réseaux sociaux. Là aussi, hein, on voit qu'il y a des personnes qui vont passer énormément de temps sur les réseaux sociaux et sur Facebook et qui finalement vont pas tellement consacrer de temps à la vraie vie.
Oui, ce qui est assez spectaculaire sur ces réseaux, c'est que là, on a des gens qui sont tout à fait dans le mauvais narcissisme, à savoir qu'ils envoient des images d'eux-mêmes, mais il n'y a pas de retour. C'est comme Narcisse qui se regarde dans les temps et qui ne voit que lui. Et là, c'est pareil, ils envoient des messages dans le vide. Sur ce qu'ils mangent, avec qui ils sont, ce qu'ils font, et le retour est inexistant. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de partage, et surtout, il n'y a pas de corps, c'est-à-dire la sensualité est absolument absente. Lorsqu'on est dans une relation entre humains, eh bien, il y a tout un tas de comportements non-verbaux qu'on perçoit, on peut se toucher, on peut se faire des bises, on peut se sourire, il y a une vraie communication. Et là, on a juste des informations. Communication, l'étymologie, il y a cum qui veut dire avec. Et information, il y a in qui veut dire dedans. Donc on envoie quelque chose dans l'autre, mais c'est virtuel et il n'y a pas de retour.
Et ce qui est assez étonnant, moi qui travaille évidemment dans les médias, Hélène Vecchiali, donc je côtoie énormément de gens qui travaillent dans les médias, et j'entends très souvent cette phrase, moi je suis pas personnellement dans les réseaux sociaux, j'ai évidemment quelqu'un qui travaille pour mes réseaux sociaux, et j'entends très très fréquemment cette phrase, on me répond, bah oui mais moi je suis dans les médias, j'ai pas le choix. Et ça me surprend parce qu'au fond, c'est pas parce qu'on est dans les médias qu'on est obligé de passer 2 heures tous les jours.
Oui, il y a cette espèce d'injonction qui traîne, hein, qui est. Moi, c'est pareil. Hein, la personne qui s'occupe de mon site professionnel, puisque je suis coach de haut dirigeant par ailleurs, qui s'occupe de ma société, de mon site, etc., me disait, mais il faut absolument que tu sois sur Facebook, il faut absolument que tu sois sur LinkedIn, il y a une espèce de... Voilà, c'est... si on n'est pas...
On est ringard. Si on est
oui,
pas
on est réac, on est ringard, on n'est pas branché. Mais en fait, c'est... Même Twitter, quand on entend dans les médias une émission en disant, mais faites-nous part de vos impressions, ils vont recevoir 2 millions de tweets. Qui va les lire? Qui va lire cette profusion? C'est juste pas possible. Et pareil sur Facebook, quand il y a énormément de gens, d'amis, entre guillemets. Voilà. Ce qui est intéressant quand même...
Sans compter que je vais donner une info, notamment à la télévision, il y a énormément d'émissions qui sont enregistrées et qui font croire qu'ils sont en direct. Soi-disant, on envoie les tweets, alors que de toute façon, comme c'est enregistré, ça part directement à la poubelle. Oui.
Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens qui ont inventé ça ont leur inconscient qui parle pour eux, puisque le terme qui est utilisé, c'est de vous demander de choisir votre avatar. Je veux dire, avatar, ça veut dire quand même une rencontre malencontreuse, quelque chose de très négatif. Hein. Et un pseudo, on voit bien que ce n'est pas le vrai nom. Donc, tout le monde joue le jeu de l'avatar, du pseudo, et tout ça se dilue. Ça part comme une bouteille à la mer. En fait, les gens lancent des bouteilles à la mer et on sait le sort réservé aux bouteilles à la mer.
Mangé par les requins. Julien est avec nous. Bonjour, Julien.
Bonjour.
Bonjour, Julien. Justement,
bonjour.
On va continuer à travailler sur cette idée avec vous. Mais d'abord, l'info Intox, c'est Nora qui m'a sorti cette nouvelle. Vous allez me dire, Julien, Hélène, si c'est vrai, si c'est faux. Donc, c'est à l'heure du boom des réseaux sociaux. Il existe une multitude de nouveaux réseaux, et notamment le réseau social du paradis. Il s'agit de Line for Heaven. Heaven, c'est le paradis en anglais, hein, si je ne me trompe pas. Sur ce site, on peut confesser ses péchés et donc on se fait bénir en amassant des points karma et ainsi nos péchés sont pardonnés et donc le paradis est à portée d'un clic. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux, Julien? C'est Nora qui nous a dit ça.
Honnêtement, je pense que c'est vrai étant donné que vous avez pu voir, donc ça va être un exemple tout à fait flou, mais un film américain, Bruce Tout-Puissant, par exemple. Oui. Vous avez quelqu'un, en fait, qui est mis dans la situation et dans les métiers de Dieu, c'est-à-dire qu'il doit faire le travail de Dieu pendant un temps donné.
Oui.
Et pendant ce temps donné, ben, lui, il reçoit donc des prières, mais par millions. C'est-à-dire qu'il entend toutes les voix des gens qui prient partout dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, je ne peux pas répondre à tout le monde en même temps, donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais créer un programme qui va recevoir les prières et je vais répondre oui à toutes en un seul clic.
D'accord.
Donc ça, c'est... Donc vous voyez l'effet, c'est une espèce... Donc je comprends tout à fait que ce site puisse exister.
D'accord, donc pour vous c'est une info. Hélène, votre avis?
Je pense que Nora s'est beaucoup amusée et que c'est une belle et drôle idée.
Donc pour vous c'est vrai ou faux?
Non,
c'est faux. Et bien finalement... Enfin,
j'espère que ce soit faux.
Mais c'est vrai.
Malheureusement.
C'est vrai, Julien. Si vous allez sur le site, vous allez voir les photos de toutes les personnes qui se sont fait confesser leurs péchés avec leur nombre de points karma. Et ça existe vraiment.
Donc, d'accord.
Oui. Voilà.
C'est vraiment les réseaux sociaux, le boom de la connerie parfois.
Il y a pire.
Oui,
il y a pire. Hein. Oui, je vous ai épargné le réseau pour les chats, où là, carrément, c'est des chats. Voilà, il y a le réseau pour
ils ont
les...
plusieurs réincarnations, donc c'est normal. Ils ont
le tricot,
karma, les chats.
Le réseau du tricot, il y en a eu plein comme ça. J'en ai 10 à peu près.
N'importe quel réseau maintenant.
Oui, mais il y a vraiment de tout.
Bon, donc ça existe, si vous avez envie de vous faire pardonner, vous avez été infidèle hier soir, vous voulez vous faire pardonner, vous allez sur Line for Heaven, et puis
n'oubliez pas de mettre votre photo aussi, hein, c'est important, ça fait partie du truc.
Voilà, c'est ça, bien sûr.
L'avatar.
Bien sûr.
C'est ça.
Bon, et ben Julien, en tout cas, bravo, hein, puisque vous avez bien répondu, on vous offrira un petit cadeau, voilà.
Oh, c'est gentil.
Et puis, écoutez, on va revenir avec vous justement sur cette question du numérique, parce que vous avez des choses tout à fait intéressantes à nous dire. On vous retrouve dans un instant.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Hélène Vecchiali est avec nous et Julien, vous avez donc vu, hein, puisque vous bossez dans le numérique, vous avez vu une évolution dans ce domaine.
Ah oui, effectivement, j'ai constaté deux points d'émergence, c'est-à-dire entre deux sociétés distinctes. L'une, IRL, comme ils disent, c'est-à-dire une société dans la vraie vie, et une société dans Internet où vous avez une e-réputation et dont les gens tiennent particulièrement à cœur. C'est pour ça, je pense, qu'ils n'hésitent pas à passer plusieurs heures d'affilée devant leurs écrans pour alimenter leur compte Twitter, alimenter leur compte Facebook, de tout ce qu'ils vivent et qu'ils veulent transmettre leurs viewers, comme on dit.
Oui, mais c'est terrible parce qu'il y a un dédoublement finalement de personnalité, ce que vous êtes en train de raconter. Est-ce que les gens vont pas se perdre? Enfin, on peut s'inquiéter. Alors, sur finalement la...
J'ai pas compris.
Tout à fait.
Si
vous voulez, comment dire?
Allez-y, Julien.
Vous avez une société où, par exemple, on va prendre l'exemple des MMORPG. Vous savez, les jeux massivement multijoueurs, dont plusieurs médias ont parlé déjà. Vous avez World of Warcraft et plein d'autres.
D'accord.
Et ces jeux-là, en fait, donc vous avez des rassemblements de plusieurs dizaines, voire centaines de joueurs qui ne se connaissent absolument pas. Et qui, par contre, vont, par exemple, accomplir des objectifs en commun.
Oui.
Et bizarrement, on y retrouve quand même une espèce de solidarité qu'ils n'auraient pas dans la vraie vie, en fait.
D'accord.
C'est-à-dire que quand ils se rassemblent, bizarrement, ils peuvent être de toute origine. Ils s'entendent super bien, c'est ce que j'ai pu constater, en tout cas. Mais par contre, dans leur vraie vie, quand ils sont, par exemple, à leur boulot, ils vivent leur vie comme quelqu'un de normal, sans aller pour autant, comment dire, sans avoir pour autant
la même solidarité, la même entraide. C'est-à-dire, ils sont seuls, voilà, au quotidien, ils sont seuls et ils ne sont en groupe et dans cette solidarité que sur Internet, quoi, que sur les jeux.
Exactement.
D'accord.
Exactement. Et après, il n'y a pas que les jeux, attention, hein, mais. J'ai trouvé que ouais, il y avait bien un truc distinct entre les deux, quoi.
Ce que vous voulez dire, Julien, c'est que finalement aujourd'hui le côté groupe solidaire, l'union fait la force, etc., ça se retrouve sur Internet et dans la société, dans la vraie vie, les gens sont de plus en plus individualistes. C'est ce que vous voulez dire.
C'est ça.
Mais est-ce que c'est la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est la vraie vie qui rend les gens de plus en plus individualistes et ils vont donc chercher ce besoin d'être reliés sur Internet, ou est-ce le contraire? Est-ce que c'est parce qu'ils se sentent tellement reliés sur Internet qu'ils deviennent totalement...
C'est exactement ça. C'est que sur Internet, vous arrivez, vous avez, donc imaginons, vous créez votre profil sur un jeu, vous décidez exactement de ce que vous allez faire sans aucune contrainte. C'est-à-dire que vous avez tout à portée de main, il suffit juste, voilà, c'est très bête ce que je veux dire, mais il suffit juste d'aller parler à, comme on dit, des gens dans le jeu pour vous faire connaître, vous avoir des amis. Vous avez même des dérivés de bonbons et tout ça qui ont fait des grands jeux où vous réunissiez, où vous utilisiez même votre vraie carte de crédit pour acheter des vêtements pixelisés dans votre jeu. On voit là quand même une espèce de perversion d'Internet.
Oui, mais moi je crois d'abord une chose, c'est que le mot « ami » devrait pas être utilisé, c'est complètement galvaudé. Mmh. Je veux dire, un ami, c'est quelqu'un en qui vous avez confiance. Je connaissais un dirigeant qui disait « moi je me pose la question, est-ce que si j'escalade une montagne, je m'encorde avec cette personne-là ? » Or là, sur Internet, je ne crois pas qu'ils s'encorderaient avec tous ses amis, même s'ils sont des milliers. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que je ne connais personne qui, dans la vraie vie, a des vrais amis, a un vrai réseau amical, des amis, des copains, des relations riches, et qui va sur ce genre de site et qui y reste des heures. Donc je répondrai à la question de Brigitte tout à l'heure en disant que je crois que c'est les gens qui sont seuls, qui sont vraiment dans une angoisse de solitude, eh bien trouvent dans ces sites-là la possibilité de se réconforter.
C'est la nouvelle religion, en quelque sorte.
Oui, voilà. C'est relié, effectivement, comme religion. Ils sont reliés, mais en aucun cas, il faudrait utiliser le mot « ami », parce que ça n'a pas de sens. Ce ne sont pas des amis, ce sont des liens virtuels. C'est-à-dire des liens imaginaires.
En fait, c'est des nouvelles sectes, ce sont des disciples.
Voilà. Mais lorsque dans la vraie vie, on est aimé, on a des amoureux, des amoureuses, de la famille et des vrais amis, on ne va pas là-bas. Donc après, est-ce qu'une fois qu'ils sont rentrés en religion, en étant reliés au sens étymologique, est-ce que ce n'est pas ça qui ensuite les amène dans un cercle vicieux qui fait qu'ils n'ont plus le temps de nouer des liens par ailleurs? Enfin, c'est des questions qu'il faudrait se poser.
Mais Julien, ce que vous constatez, c'est que ça s'aggrave. Enfin, s'aggrave. C'est un jugement
aller,
finalement de ma part.
Ça ne va pas aller en s'empirant, mais ça va aller de façon...
exponentielle.
Oui, grandissante, c'est-à-dire que ça va être de plus en plus banal. Vous savez, avec Internet, maintenant, on a accès à tout. Donc,
Mais en même temps, Nora dit souvent qu'au moins, ils ont ça. Oui, s'ils n'avaient pas ça, ils seraient peut-être encore plus...
Pour les personnes qui sont isolées, notamment, et, ou qui n'ont pas forcément d'amis au quotidien, ou qui sont vraiment introverties, ça peut être une bonne manière aussi de communiquer avec, avec d'autres personnes.
Oui, oui, très certainement, ça doit pouvoir être un médicament. Maintenant, après, est-ce que le médicament aggrave pas le mal ou, j'en sais rien. Après, c'est à ces gens-là qu'il faudrait
le dire. Les enferme. Finalement, ça les enferme. Quoi, c'est ce que vous voulez dire, Julien, au fond. C'est que le temps, tout le temps qui passe là, sur les réseaux sociaux, sur les forums, dans les jeux, bah, au fond, c'est du temps qui ne passe pas plus haut.
C'est ça, tout est une question de modération. Si vous avez quelqu'un qui passe plus de 10 heures par jour devant un écran, au niveau social, je pense qu'il va y avoir un petit souci, quoi.
Oui, oui, bien sûr, 10 heures...
Mais après, à contrario, vous avez dans ces trucs-là, dans ces réseaux, des gens qui se sont rencontrés, qui se sont déjà mariés. Enfin, il y a déjà eu
des belles histoires.
Des rencontres, comme des belles histoires, grâce à des jeux, à des forums, que ce soit sur du cosplay, de tout.
Oui, il peut y avoir des belles surprises partout, hein. Même le pire n'est pas sûr, hein.
Mais en fait, voilà, c'est aléatoire.
Oui, mais ce qu'on voit bien, Julien, c'est que toute nouvelle invention humaine apporte des avantages, des inconvénients, et c'est à chacun de faire son libre arbitre et de trouver le juste milieu, quoi.
C'est ça. Je suis pas d'accord.
Bah oui. Bon, bah écoutez, Julien, merci de votre témoignage. Ce qu'on peut juste, quel serait comme ça, les signes qui laissent à penser qu'on est en danger, justement, qu'on s'éloigne un peu de la vraie vie, Julien. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous écoutent? Quels conseils vous donneriez?
Je dirais de faire très attention aux sites qu'ils fréquentent. Les sites, par exemple, où vous inscrivez, où vous donnez vos adresses, que ce soit vos adresses e-mail ou vos coordonnées téléphoniques, tout ça, ce soit représente des banques de données. Tout le monde est en train de faire ça. Vous avez vu que même dans les voitures, maintenant, ils installent le Wi-Fi. C'est pour vous garder...
À portée de main.
À portée de main, c'est exact. C'est ça.
Je crois qu'après, c'est une histoire de quantité. C'est-à-dire, c'est de dire aux gens d'oser chronométrer le temps qui passe et de voir dans tout leur domaine de vie, de faire un pourcentage sur une semaine du temps qu'ils consacrent à eux-mêmes... pour leur bien-être, du temps qu'ils consacrent à leur famille, du temps qu'ils consacrent à un comportement citoyen, du temps qu'ils consacrent à leur travail. Et quelquefois, en chronométrant, on se rend compte que c'est là où on voit qu'on a dépassé la quantité raisonnable et qu'il faut être vigilant.
Oui.
Merci en tout cas, Julien. Et puis peut-être qu'on doit, on doit rappeler aussi aux parents qui nous écoutent, faites attention avec vos enfants, vos ados, parce que c'est parfois à cette époque de la vie qu'on va déraper et qui après
est plus difficile. Oui, parce que c'est l'adolescence est une période de grande fragilité et ça permet, en étant seul avec son téléphone ou sa tablette, ça permet d'éviter de se frotter aux autres parce que ça peut être compliqué parfois de le faire. Donc, ça leur donne un bon alibi pour fuir ce qui leur permettrait au contraire de se construire.
Merci beaucoup, Julien, de votre témoignage. On va se retrouver dans un instant avec Dorothée Derieux qui nous a rejoint. Moi en mieux, c'est une thérapie positive qu'elle nous propose.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Hélène Vecchiali est avec moi, vous êtes psychanalyste, vous êtes coach aussi pour les chefs d'entreprise, hein, et Dorothée Derieux nous a rejointe.
Bonjour.
Et vous êtes en effet plutôt coach, hein, Non, je sais, vous allez me dire que vous êtes transformatrice positive.
Alors pas du tout, je suis une jeune chef d'entreprise qui a une société qui fait des produits alimentaires et j'ai une philosophie de vie que j'ai voulu partager avec le plus grand nombre. Mais je ne suis pas du tout coach, je suis tout sauf une coach, une thérapeute sportive, émotionnelle. Je suis la bonne amie qui vous veut du bien.
D'accord. Voilà. Alors, vous direz à votre éditeur de changer votre bandeau.
Et non, parce que c'est tout l'enjeu de ce mois en mieux. C'est-à-dire que la vie est le résultat de ce qu'on fait tous les jours, de ce qu'on répète. Et donc, on peut tous coacher notre vie. Et c'est comme le fait que je ne suis pas coach et un message d'espoir pour tout le monde. En fait, c'est comme ça que je le propose.
De toute façon, votre livre, Mois en mieux, qui est sorti aux éditions Albin Michel, donc c'est un peu votre expérience que vous avez eu envie de transmettre aux gens qui nous écoutent et aux lecteurs, parce qu'au fond, vous dites d'ailleurs à un moment donné que vous étiez peut-être pas si à l'aise que ça dans votre corps, pourtant charnel, généreux.
Oui. Ça a été un vrai challenge de me réconcilier et d'aimer ce corps, effectivement, de l'odorer pour qu'on puisse l'honorer correctement et donner le meilleur de moi-même. Mmh. Ah oui, ça a été. D'ailleurs, à l'aube de mes 45 ans, c'est de mieux en mieux, mais ça reste un chemin, le chemin vers soi, vers son corps. Et pour bien aimer ceux des autres, il faut, je pense, c'est mon chemin, vraiment aimer le sien. On ne peut pas faire l'économie de se trouver, de s'accueillir avec ses défauts, ses faiblesses. Et donc, dans ce bouquin, justement, il y a pas mal de tips, il y a pas mal d'astuces pour aller au plus près de soi, qui n'est pas du tout une démarche égocentrique, qui est tout sauf ça, qui est vraiment une démarche de s'accueillir, se donner le meilleur pour soi, pour le transmettre à l'autre. C'est-à-dire que je pense, c'est vraiment le résultat de mon vécu, donc ça n'a rien d'une expertise, comme madame à côté, forcément. Mais en tout cas, le résultat de ma vie, à l'aube de mes 45 ans, c'est que... on ne peut pas laisser les clés de son bonheur à l'autre. C'est-à-dire qu'il faut connaître les siennes, il faut connaître son fonctionnement et le demander à l'autre si nécessaire, oser le demander. Et voilà, pour pouvoir donner le meilleur au final, puisqu'on est bien d'accord, la vie, c'est quelques dizaines d'années, au mieux peut-être 80, 90, on verra bien. Mais c'est une histoire de transmission. Je pense que, en tout cas, moi, c'est ma philosophie de vie. C'est pour ça que je suis chef d'entreprise. C'est parce que, transmettre le meilleur à mes proches et à mes collaborateurs et aux gens qui mangent tous les jours, parce que c'est bien mon métier, c'est de faire des produits alimentaires. C'est ce qui m'a permis de sortir d'une grosse boîte agroalimentaire il y a 12 ans, de créer mon entreprise, de passer à travers des challenges extrêmement élevé, d'avoir une croissance pas du tout voulue, une décroissance encore moins voulue, et finalement de me trouver et de m'autoriser à utiliser cette sublime marque que m'a léguée ma mère à son départ. Elle est morte il y a 13 ans. C'est elle qui l'a déposée, ce mois en mieux. Elle a été malade pendant très longtemps et son chemin avec le corps m'a énormément inspirée. Et donc c'est une grande joie et je vous remercie de m'accueillir parce que c'est ma toute première fois aujourd'hui, Brigitte. C'est ma première radio avec vous. Et donc j'en suis grand. Voilà, je suis très très heureuse d'être là. Et donc dans ce bouquin il y a surtout des astuces pour se réconcilier avec son corps en s'accordant, moi ce que j'estime être vraiment le minimum, mais ça a changé ma vie, c'est 15 minutes par jour pour moi. Voilà.
Alors, il y a d'abord l'explication de ce que vous venez de dire, et vous montrez bien à quel point tout vient finalement de l'intérieur, et ça va assez avec l'émission qu'on fait aujourd'hui, où on se rend compte que si on veut vraiment être bien, il faut peut-être d'abord travailler sur soi. Alors, justement, Hélène Vecchiali, Dorothée Derieux, parlait de ce cheminement d'acceptation de son corps, c'est quelque chose de très féminin, ça, non ?
Oui, je pense que nous avons, nous les femmes, cette grosse difficulté à ne pas nous sentir belles, à nous sentir grosses. Les pourcentages sont énormes. Mmh. 90% des femmes ne se trouvent pas belles et 72% se trouvent trop grosses. C'est quand même catastrophique. Donc il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus pour arriver à ce que dépeint Dorothée, qui est le bon narcissisme, c'est-à-dire être capable de s'aimer tel qu'on est, de s'apprécier tel qu'on est, de se sentir bien. Et par là même, de pouvoir aimer les autres, donner, recevoir, tout ce qui est la vraie vie.
Alors justement, en vous lisant Dorothée Derieux dans ce livre « Moi en mieux » aux éditions Albin Michel, plusieurs fois ça revient, vous parlez de la paix intérieure, du soleil intérieur, du bonheur qui vient de l'intérieur. C'est quelque chose que vous avez répété beaucoup dans le livre.
Ben oui, parce que je pense qu'il n'y a que la répétition qui marche dans la vie et l'organisation finalement. Et que, effectivement, ce chemin vers soi amène un équilibre, une paix qui permet... la vie est faite de plaisir et de souffrance pour moi. Alors, il faut être plus dans le plaisir que dans la souffrance, on est bien d'accord. Mais c'est ok d'avoir des périodes un peu de down. Et l'organisation et la répétition quotidienne de bons bon, j'ai envie de dire rituels, mais voilà, de bonnes habitudes, de visualisation.
Il y a plein d'ailleurs.
Il y a plein de tips.
Les exercices, voilà. Hein, que vous donnez.
Oui. Absolument, parce que ces 15 minutes par jour, elles sont réelles. Je les ai mises en pratique pour que ça devienne un pilotage automatique. Je me demande pas si je me lave les dents le soir, vous voyez, ou voilà. Et ben c'est pareil, c'est 15 minutes pour moi. C'est plutôt le matin, mais parfois c'est le soir. Bon, peu importe, dans la journée. Et voilà, il y a plein de techniques qui me permettent de me reconnecter avec moi-même, parce que finalement. Alors, je ne vais pas polémiquer sur ce que vous venez de dire sur les réseaux sociaux, mais on est dans une société qui nous attrape dans tous les sens, qui nous amène à droite, à gauche, et on est quand même très connecté. Si on n'est pas sur les réseaux sociaux, on a au moins des mails, une activité professionnelle, et on est très connecté. Il faut régulièrement déconnecter. Enfin, ça, en tout cas, c'est ma manière de vivre. Et donc, la déconnexion, c'est se recentrer sur soi. Alors, je vais pas vous parler de chakras, parce que sans ça, il y en a la moitié qui vont décrocher. Mais voilà, se reconnecter avec son corps, c'est faire du sport, faire des choses manuelles. Donc moi, c'est l'alimentation. Mmh. Et la pratique sexuelle est quand même un des grands piliers de la vie. Et là, dans tous ces domaines-là, au niveau féminin, en tout cas, je pense que... Enfin, moi, à l'aube de mes 45 ans, c'est vraiment l'heure de l'autorisation, d'accepter qui je suis, ce que j'ai envie de faire, Oui. donc oui, cette paix intérieure, je la trouve, elle m'échappe, hein, très, très souvent, hein, et ça sera jusqu'à la fin de mes jours, hein. Il y a des événements que j'ai pas anticipés, qui me tombent dessus, et cette connexion avec ce corps...
Vous dites d'ailleurs, hein, qu'il faut réapprendre, donc il faut aimer son corps, et puis après, il faut aussi réapprendre le plaisir.
Oui.
Ce qui est finalement pas si évident que ça quand on écoute les gens. Hein.
Faire des bonnes associations avec le plaisir. C'est-à-dire que moi, j'avais associé au plaisir des choses qui me faisaient du mal. Vous voyez, pas que dans la bouffe aussi, hein, pas que dans la relation à l'autre, mais dans la relation à l'autre aussi.
Et finalement, par exemple,
bon, ce qui est très fondateur de ma passion pour l'humain, c'est que j'avais deux parents extraordinaires avec des vies d'entrepreneurs merveilleuses, et j'étais un peu seule à la maison dans ma toute tendre enfance. Donc j'ai développé un discours intérieur déjà très profond, et donc j'ai associé le plaisir. Alors il y a un autre truc qui a vraiment fondé ma vie, c'est que ma mère est tombée malade très tôt, j'avais 15 ans. Et donc je me suis occupée d'elle, et que j'ai associé s'occuper de l'autre à de l'amour. Alors j'ai forcément attiré, notamment après son départ encore plus fort, mais des gens dont il fallait que je m'occupe. Donc grosso modo,
oui,
des mecs.
Le rôle du sauveur en quelque
sorte. Oui, absolument. Voilà, et je l'ai reproduit jusqu'à ce que je réalise que ben on pouvait m'aimer juste pour ce que j'étais et pas pour ce que je faisais. Et ça, ça a été une révolution intérieure.
Oui, en même temps, vous avez peut-être donné ce que vous auriez aimé recevoir quand vous étiez enfant.
Bien sûr, il y a un transfert. Comme ça, oui, hein. Oui, absolument. Mm-hmm. Mais c'est vrai que donc, le plaisir, pour moi, était associé à des choses qui ne m'élèvent, qui n'allaient pas dans le bon sens.
Et donc, vous avez débusqué la répétition de vos choix.
Et oui, la répétition. Alors, la répétition dans l'échec est quelque chose de très constructif pour mon existence. C'est-à-dire, quand je me plante, bon, j'apprends quelque chose.
C'est très psychanalytique, ça, Hélène Descalier.
Ah oui, c'est les répétitions, c'est ce qu'on fait régulièrement. Et effectivement, Dorothée a raison. Si jamais on arrive à repérer ces répétitions, elles s'arrêtent. Mais je reviens sur ce qu'elle disait au sujet du plaisir. Et je crois que nous, les femmes, sommes très impactées par... cette difficulté à éprouver du plaisir. J'en veux pour preuve cet adage qui dit « il faut souffrir pour être belle ». Et nous, les femmes, souvent, eh bien, on va s'infliger tout un tas de sévices. On ne va pas pouvoir manger tout ce qu'on veut parce que le chocolat, la chantilly et la mayonnaise, ce n'est pas très bon pour les régimes. On va s'imposer des soins.
Ce n'est pas très
bon
pour la santé non plus.
Sûr, ça n'a pas été démontré, ça.
Tout est une question de régularité.
Oui, voilà. On va s'imposer des choses par rapport à notre corps. On fait rarement du sport pour le plaisir, mais c'est souvent pour être plus musclé, avoir moins la peau qui tombe, avoir plus des abdominaux, moins de ventre, et le visage, les soins du visage, etc. Donc, je me retourne vers Dorothée pour qu'elle nous en dise plus sur ce sujet, mais on est rarement dans le plaisir, nous les femmes,
bien sûr,
par rapport à notre corps et notre image.
Alors moi, j'entends, hein, et c'est vrai que c'est très représentatif d'une grande frange de la population féminine. Et le jour où j'ai associé le sport au plaisir, ça a radicalement changé mon existence. C'est-à-dire que j'ai associé le...
Vous faites quoi comme sport ?
Alors, j'en fais plein différents. J'ai eu différentes périodes. Je suis tombée dans le crossfit il n'y a pas longtemps. Mais attention, hein, néophyte que je suis, hein, je ne fais pas de challenge spécifique. Hein. Je danse. Donc, j'ai à peu près dansé tout ce qu'on pouvait danser. Et je continue. Je fais de la street dance aujourd'hui. Donc, je fais du collectif et de l'individuel. Et je fais de la boxe. Voilà, de la boxe thaï. Voilà. Et en fait, ce que je trouve extraordinaire avec le sport, c'est que ça vous réconcilie, ça vous rapproche de vous-même. Moi, c'est ce qui m'a permis de d'enclencher mon divorce, par exemple.
C'est évident, le sport généralement, et d'ailleurs, c'est les hommes qui sont plus à l'aise et plus en rapport avec leur corps sont souvent plus sportifs que les femmes. Mais faut-il encore avoir ce déclic ? Et il me semble, je vous écoute, Dorothée Derieux, je vous regarde, vous êtes quand même quelqu'un, vous êtes quand même a priori une nature assez optimiste, positive et active. Ce qui est malheureusement pas le cas de beaucoup de femmes.
J'étais pas comme ça il y a 5 ans.
C'est vrai ? On a du mal à le croire. Hein,
mais même mes clients me demandent, mais tu me rappelles, quand est-ce que t'as switché sur un autre mode ? Non, il y a 5 ans, j'avais 12 kilos de plus qu'aujourd'hui. J'étais très malheureuse dans mon couple. C'est absolument pas la faute de mon ex-mari. C'est vraiment, j'ai co-créé cette situation, on est bien d'accord. Je suis responsable de ça. J'étais très malheureuse. J'avais un petit garçon merveilleux qui est toujours là, qui grandit avec... voilà. Et j'avais une entreprise en décroissance. Et je vous assure que c'était pas comme ça.
Mais donc, alors c'était quoi le déclic ?
Le déclic, ça a été le sport. Ça a été le sport.
Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes mis au sport ?
Mon fils.
D'accord, pour poursuivre votre fils en fait.
C'est-à-dire que voilà, je me suis dit, on peut pas, on est là pour transmettre, je peux pas lui dire que ma situation actuelle c'est le bonheur. Ce que je lui disais, je lui dis, maman va très bien, ne t'inquiète pas, tout va bien. Et je me suis dit, non, on peut pas lui dire ça, sans ça il va construire sa vie sur ça, il va croire que c'est ça. Le bonheur, il va le rechercher et ça va être une catastrophe. Donc j'avais fait 4 ans de thérapie de couple avec mon ex-mari. C'est-à-dire que effectivement, ce que vous pouvez percevoir aujourd'hui en me regardant a été vrai il y a 5 ans. C'est-à-dire que je suis extrêmement pugnace. C'est-à-dire que je lâche pas. D'ailleurs, j'ai une vraie difficulté à lâcher. Il a fallu que je lâche ce mariage. Et donc le fait est que après 4 ans de thérapie de couple et bon des résultats non satisfaisants, j'ai décidé d'être heureuse parce que je me suis dit finalement être une bonne maman ou une femme qui a une utilité dans l'existence. C'était une femme épanouie et peu importe les décisions assez, assez courageuses qu'il faut prendre. Et au contraire, allons-y. Donc j'ai divorcé. Mais j'ai divorcé parce que je me suis mise à faire du sport pour ce petit garçon qui courait déjà plus vite que moi.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous l'avez fait pour lui, pas pour vous au départ.
Je l'ai fait pour lui transmettre le meilleur. Oui, c'est vrai. C'est vrai que... Et depuis 5 ans, j'apprends à m'aimer en premier. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai fait ça pour lui il y a 5 ans. Et ce chemin vers moi me réconcilie avec qui je suis. Et qu'aujourd'hui, je fais des choses pour moi en premier.
Mais c'est important parce que je crois qu'en effet, le déclic qui vient vraiment de soi-même est quelque chose d'assez rare. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Hélène Vecchiali. Ça peut venir évidemment dans une thérapie, ça peut venir de son partenaire, ça peut venir en effet de son enfant. Et combien de fois on pourrait dire à des femmes qui sont dans des couples toxiques, au moins partir pour leur enfant. Mais c'était ça que je voulais comprendre.
Oui. Oui. Non, c'est vrai que voilà, ce chemin qui a 5 ans est un chemin vers moi. Mmh. Et donc j'apprends. C'est pour ça que c'est un message. Ce bouquin, c'est un message d'espoir. C'est-à-dire que avec la répétition de bons circuits émotionnels qui vous honorent, vous pouvez reprendre les rênes de votre vie.
Il y a cette rigueur qui malheureusement manque souvent.
Mais parce que les gens ne s'aiment pas assez, je pense. Parce que cette rigueur est là pour honorer qui on doit être.
Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, c'est plein de conseils qui sont justes et qui sont pleins de bon sens et qui sont finalement très simples. Et il faut juste le répéter.
Il faut s'y mettre.
C'est comme le muscle, hein, l'esprit. C'est en répétant,
bravo.
Répétant, répétant.
C'est le muscle du bien-être. C'est un muscle, le bien-être et le bonheur. Enfin, je l'expérimente tous les jours.
Ça s'appelle Moi en mieux, c'est aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup, Dorothée Derieux.
Merci à vous.
On va retrouver dans un instant Amaury qui a testé pour nous ce gel de Marc Dorcel que nous avons déjà testé, Hélène, et on va en parler dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
Brigitte Lay, Sud Radio, le Love Conseil.
Eh bien, je vais vous proposer de respirer en cœur, parce que, en effet, la respiration est essentielle pour perdre le contrôle, et donc pour un meilleur lâcher prise. Et c'est vrai que c'est une condition indispensable pour une meilleure sexualité. Il est certain que plus on est dans le lâcher prise, plus on a des chances d'avoir une sexualité harmonieuse. Et c'est vrai que le contrôle, très souvent, est plus présent que le lâcher prise lorsqu'on constate comment les gens font l'amour. Vous êtes d'accord, Hélène Vecchiali ?
Tout à fait.
Bon. Alors, il existe des exercices tout à fait intéressants qu'on peut faire seul d'abord, et puis après, je vous en proposerai à faire en couple. Alors, ça va peut-être vous paraître surprenant, mais pour bien respirer, dans le but, évidemment, d'avoir une bonne sexualité, il va falloir respirer en prenant bien conscience de ce qui se passe au niveau de son bassin. Et alors, comment on prend conscience qu'on respire bien au niveau de son bassin ? Eh bien, en respirant à quatre pattes, figurez-vous. Eh oui. Ben oui, ne me regardez pas comme ça, je ne vous demande pas de faire l'exercice tout de suite.
Merci.
Donc, vous vous mettez à quatre pattes, vous creusez les reins, et au moment de l'inspiration, vous allez faire le dos rond, et au moment de l'expiration, vous inspirez en creusant les reins, et au moment d'expirer, vous faites le dos rond. Et vous allez voir que ce mouvement donc, que vous allez faire en essayant de le plus possible d'être dans votre bassin va vous faire comprendre que votre respiration dans votre bas-ventre peut être présente et vous allez ressentir ce qui se passe au niveau de vos organes génitaux et vous allez constater qu'il y a un mouvement au niveau du périnée. Les hommes constateront sans doute aussi plus facilement peut-être parce que le sexe est extérieur, mais si les femmes se concentrent bien, elles pourront aussi ressentir ce qui peut se passer et ça c'est l'exercice donc à faire seul. Ensuite, vous pourrez faire un exercice à faire en couple. Donc, vous vous asseyez en tailleur, face à face. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs d'être nu. Hein. Vous pouvez garder vos sous-vêtements. Et vous allez d'abord respirer normalement, face à face. Et tout doucement, vous allez tenter de ralentir votre respiration. Vous allez essayer d'inspirer plus consciencieusement et expirer plus consciencieusement. Et vous allez voir que déjà, ça va ralentir votre respiration. Vous pouvez vous aider aussi en appuyant sur la poitrine et le ventre du partenaire hein, pour bien comprendre qu'on expire le plus. Évidemment, quand vous appuyez, vous expirez et vous relâchez quand vous inspirez. Et ensuite, vous allez tenter de laisser un petit temps entre l'inspire et l'expire. Hein, donc, vous gardez l'air un petit peu en vous. Et pour finir cet exercice, vous allez essayer de vous calquer l'un sur l'autre pour inspirer et expirer en même temps. Et déjà, tout ça, ça va vous faire bien avancer sur votre respiration et aussi sur la communication dans le couple. C'est intéressant. Et alors, troisième exercice pour les plus expérimentés, si je puis dire. Alors là, on est pas loin du tantra. Hein. Vous pourrez, durant le coït, apprendre à respirer ensemble. Alors, le principe, c'est le même. Hein. On ralentit l'inspiration et l'expiration. Et évidemment, cet exercice ne peut se faire que dans des mouvements de coït assez lents. Si vous faites un mouvement de bassin très fort et très rapide, ça sera très compliqué d'arriver à calquer votre respiration. Et ça montre bien à quel point on a beaucoup trop tendance dans la sexualité à toujours vouloir faire des mouvements de coït rapide, alors que la lenteur est quelque chose qui est très important dans la sexualité pour justement être dans l'harmonie du ressenti de l'un et de l'autre. Voilà, bon, vous n'avez rien à ajouter ? Non, vous respirez non. Là.
Je respire et je me calque sur la respiration de tout le monde.
Voilà. Amaury est avec nous. Vous avez reçu ce gel qui s'appelle donc Orgie. Hein. C'est un sexy vibe. C'est donc un gel excitant. Amaury, et vous l'avez testé pour nous, j'espère. Bonjour.
Oui, bonjour. On a testé ça ce week-end. Électrisant, vibrant, plutôt chauffant.
Plutôt quoi, pardon, j'ai pas compris.
Plutôt chauffant.
Chauffant, oui, 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 ouais, oui. Voilà. Oui, parce qu'en fait, il doit y avoir un peu de menthol, j'imagine. J'ai pas réussi à regarder exactement. Non, il y a de l'alcool, il y a des.
Oui, c'est à base de plantes.
C'est ça, c'est à base de plantes voilà. D'Amazonie, par. Oui, c'est ça. Il y a du menthol.
Ouais, bon, oui. Après, bon, non, mais c'était sympa.
Alors, il est assez. Nous, on l'a testé sur la main, hein, évidemment, parce qu'en studio, quand même, on reste raisonnable.
Oui, oui, bien sûr.
Mais la texture est assez sympathique. Moi, j'aime assez bien le conditionnement. Je trouve que c'est assez discret, assez joli.
Oui, c'est une pompe automatique, c'est pas mal. Voilà.
Hélène, vous avez l'air complètement attirée. Ouais.
Je ne me sens pas vraiment concernée, donc j'écoute dans ces cas-là.
Bon, alors voilà. vous l'avez testé donc, avec votre compagne, Amaury,
oui, voilà.
Et
oui.
Donc, chauffant, oui. Donc,
chauffant, oui, il marque électrisant, je n'ai pas
spécialement ressenti d'électricité, mais bon, après...
Heureusement, vous imaginez, vous auriez eu un court-circuit à Maurice.
Voilà.
Ça n'aurait pas été... Non, mais en effet, il y a l'effet un peu chauffant sur les muqueuses. Hein. Attention, je conseille toujours dans ces cas-là de démarrer avec un tout petit peu de produit parce qu'il y a des femmes qui sont plus sensibles que d'autres et ça peut être un peu...
Ouais, le côté inverse.
Justement, électrisant, justement.
Voilà.
Et vous l'avez ressenti, l'effet chauffant, ou il n'y a que madame ?
Non, j'ai ressenti aussi, oui.
D'accord. Donc, ça vous a plutôt amusé.
Oui, c'était sympathique.
Oui, ça change.
C'était sympa.
Voilà. En fait, ce genre de lubrifiant, c'est pas du tout dû pour utiliser avec des préservatifs. C'est pas du tout dû pour en cas de sécheresse vaginale. C'est vraiment des lubrifiants qui sont ludiques, en fait. Hein. C'est pour donner, pour donner l'impression, finalement, d'être avec une autre femme.
Quand
je dis ça à Maurice, vous l'avez pris au premier degré. Non, je veux dire, c'est juste un petit côté fun, ça donne un rapport sexuel un peu différent parce qu'il y a des sensations un peu différentes en fait.
Voilà, ça, c'est un petit plus, on va dire.
Ah, j'ai pas dit que c'était un petit plus, j'ai dit que c'était différent. C'est pas forcément petit plus parce que. Mais ça donne. Bon, c'est une petite fantaisie qu'on peut s'amuser comme ça, voilà.
Oui, voilà.
Bon. Peut-être à éviter pour avant un cuni, quand même.
Je pense.
Bah, vous n'avez pas tout essayé, Amaury.
Oui, non, on est resté simple.
Vous êtes resté simple, d'accord.
Voilà.
Bon, très bien. Il me reste à savoir quelle note vous donnez, Amaury.
Je vais lui mettre 6.
6 sur 10, bon, d'accord. Voilà. Bon, à mon avis, vous n'allez pas l'utiliser tous les soirs.
Non, on réessayera plus tard.
Ok, ben, en tout cas merci de l'avoir utilisé
et
d'avoir essayé pour nous. Je rappelle donc que ça s'appelle Orgy, c'est un lubrifiant que vous pouvez retrouver sur le site de Marc Dorcel évidemment. Il nous reste quelques minutes, Hélène Vecchiali, on va peut-être revenir sur l'utilisation du virtuel, formidable mais à utiliser avec modération.
Oui, à savoir ce qu'on fait, quoi. Savoir que lorsqu'on est sur Internet, on n'est pas en relation avec des amis, on est en relation avec soi-même. Je crois que voilà, c'est cette façon-là qu'il faut l'envisager. Et donc, en relation avec soi-même, tel Narcisse qui se regarde dans son miroir. Et donc, ne pas en attendre plus que ce qu'on voudrait, quoi. Et surtout pas des amis, j'insiste là-dessus, parce qu'à chaque fois que le mot ami est prononcé dans ces relations-là, c'est assez choquant, puisque un ami, c'est pas ça.
Voilà. Et peut-être ajouter que ne mettez pas... faites attention si vous mettez des photos de vous. Ça peut vraiment circuler. C'est pas si simple. On peut les faire retirer, évidemment, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le dit. Hein.
Oui, et puis je crois surtout de ne pas mettre les photos des autres sans leur autorisation. Parce qu'il y a des gens qui sont, par exemple, à un anniversaire, qui prennent une photo du groupe et qui l'envoient. Et les autres personnes présentes n'ont pas forcément envie d'apparaître sur des réseaux sociaux simplement parce que c'est irrespectueux.
Voilà. Et si vous mettez des photos de vous dans des ébats sexuels, moi j'ai quand même tendance à considérer qu'il est plutôt prudent de flouter les visages parce que vous ne savez pas, aujourd'hui vous êtes peut-être content et puis peut-être que dans 2-3 ans, vous irez à un entretien d'embauche et cette photo peut...
Oui, on peut ne pas en mettre du tout d'ailleurs. Hein,
oui,
ce genre de photo.
J'entends bien, mais
c'est possible.
Je veux pas non plus être censeur, c'est juste de donner en effet les quelques conseils
élémentaires. Et puis, ce qui est la priorité, tout ça, c'est les adultes, mais la priorité, c'est de vérifier que nos enfants ne regardent pas n'importe quoi sur leur téléphone portable ou sur leur tablette. Et ça, c'est vraiment, vraiment prioritaire. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un pourcentage d'enfants qui ont accès à des sites pornographiques et qui puissent penser que la sexualité, c'est ça, et que les relations d'amour sont ça, c'est une vraie catastrophe. C'est une effraction dans leur imaginaire, c'est une effraction dans leur fantasme, et on ne peut pas revenir en arrière parce que les images sont ancrées quasi définitivement, donc les parents doivent être d'une rigueur absolue par rapport à ça, quitte à être... vraiment des censeurs absolus, quoi.
Oui, il vaut mieux être un petit peu trop, un peu trop pour un vieux con pour protéger vos enfants, évidemment.
Oui, oui.
Merci beaucoup, Dorothée Derieux. Moi en mieux, c'est aux éditions Albin Michel. Merci, Hélène Vecchiali. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Moi, moi et moi, aux éditions Marabout. Tout de suite, vous recevez bien sûr, vous serez en compagnie de Liane Folly. Ce n'est pas elle que vous allez recevoir, c'est elle qui va vous recevoir sur Sud Radio, bien sûr. Et demain, on sera avec Pascal Neveu. Vous ne le savez peut-être pas, mais dimanche, c'est la fête des pères. Eh bien, on va se poser la question, c'est quoi un père aujourd'hui ? Est-ce que c'est si simple d'être père ? On en parle demain. Et avec vous, bien sûr, au 0826 300 300, je vous embrasse.